Bon matin, Église Nouvelle Vie, ça va bien? Yes, yeah, c'est bon d'être avec vous aujourd'hui. Quelle joie pour Karine et moi d'être avec vous. On fait partie de la famille à une distance pas très loin, mais c'est toujours un privilège pour nous de venir ici, de vous revoir, de fraterniser avec vous, puis de prêcher ici. Je veux prendre le temps de remercier Pasteur Claude. Je sais qu'il va probablement être en train de regarder quelque part dans le monde mon message pour voir si je prêche bien ce matin. Mais je veux le remercier pour vraiment tout le support qu'il nous donne à Karine et moi dans le ministère. Et Chantal aussi, qui est tellement présente dans nos vies, l'amour qu'il nous donne. C'est vraiment quelque chose qui compte beaucoup pour nous. Puis on veut prendre le temps de dire merci encore une fois. Est-ce qu'on peut remercier votre pasteur, Pasteur Claude, Chantal? Est-ce qu'on peut prendre le temps de les remercier? Et je veux prendre le temps aussi de remercier Pasteur Mark. Parce qu'il y a une dizaine d'années, j'ai entendu un message de Pasteur Mark qui m'a marqué. Et je me suis dit, un jour, il faut que je reprêche ce message-là. C'est ce que je vais faire ce matin, OK? Alors, si, Marc, si tu te dis, il me semble que c'est mon message, c'est ton message, OK? Mais j'ai amené ma sauce un petit peu avec aussi. Je l'ai rendu peut-être pire ou meilleur. On va voir. Pasteur Marc, je vous laisse décider. On s'en reparlera. On est dans cette thématique, le Dieu que tu ne connais pas. Et on va lire ce matin dans Néhémie, chapitre 8, verset 9. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Esdras leur dit, « Allez, mangez des viandes grasses. » Quand j'ai lu ça, je me suis dit, « Finalement, un commandement facile pour moi. » Amen? Non. « Allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des porcs à ceux qui n'ont rien de prêt, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » Car la joie de l'Éternel est votre force. Aujourd'hui, mon titre, c'est le Dieu de la joie. D'où vient la joie? Réponse, la joie vient de Dieu lui-même, Sophonie chapitre 3, « L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Combien sont contents que nous servons les chrétiens un Dieu qui n'est pas stoïque, indifférent, austère et misérable, mais que nous servons un Dieu de célébration, un Dieu qui exprime sa joie, un Dieu qui habite dans la joie. Est-ce que c'est l'image que vous avez de Dieu? C'est peut-être pas l'image que cette société québécoise a de Dieu. Luc 15, « De même, Jésus dit, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Notez bien, le texte ne dit pas que les anges se réjouissent. Je suis certain qu'ils se réjouissent lorsqu'un pécheur se repent, mais le texte ne dit pas ça. Le texte dit qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu. Alors, si la joie est devant les anges, qui se réjouit? Dieu se réjouit, et parce que Dieu se réjouit, les anges se réjouissent à leur tour. Écoutez bien ceci, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Jésus et le Dieu des chrétiens est différent de toutes les autres divinités dans l'Antiquité parce qu'il est le seul à se réjouir, à chanter, à danser et à célébrer. Il n'y a aucune autre divinité comme lui. Alors, bonne nouvelle, si tu penses qu'au ciel, ça va être plate, si tu penses qu'au ciel, c'est des anges joufflus assis sur des nuages en train de jouer de la harpe et de manger du fromage à la crème Philadelphia, bonne nouvelle pour toi, le ciel ne ressemble pas à ça. Le ciel est un endroit de joie et de célébration parce que Dieu est joyeux. En fait, Dieu est l'être le plus heureux dans l'univers. John Ortberg a écrit ceci, fantastique. Nous ne comprendrons pas Dieu jusqu'à ce que nous comprenions ceci. Dieu est la personne la plus heureuse dans l'univers. Dieu connaît aussi la tristesse. On se souvient de Jésus, entre autres choses, comme un homme de douleur et de peine. Mais regardez ce qu'il dit. « Mais la tristesse de Dieu, comme la colère de Dieu, est sa réponse temporaire à un monde déchu. Un jour, lorsque le monde sera remis en ordre, la tristesse sera bannie pour toujours de son cœur. La joie est à la base du caractère de Dieu. La joie est sa destinée éternelle. Dieu est l'être le plus heureux dans l'univers. » Alléluia! Dieu est un Dieu de joie et Dieu veut qu'on exprime sa joie. Psaume 100 dit ceci. « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. » Vous avez compris? Apparemment, non. OK. Je vais vous donner une deuxième chance. C'est bon? « Poussez des cris de joie vers l'Éternel, vous tous, habitants. » OK. Je vais vous donner une dernière chance. Mais on va prétendre qu'on est tous noirs pendant 5 secondes, OK? Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre. Dieu est un Dieu de joie et Dieu veut qu'on exprime sa joie. Mais le problème, c'est que certains chrétiens ont une joie qui est tellement profonde qu'on ne la trouve plus. C'est comme Pasteur David, moi, la joie du Seigneur est dans mon cœur. OK, good, fine. Mais s'il vous plaît, dis à ton cœur de parler à ta face, OK? Ma femme me dit ça des fois. Moi, j'ai tendance à être sérieux, puis ma femme me dit, « T'es-tu content? » Ben oui, je suis content. Ben dis à ta face que t'es content, dis-y. J'ai grandi dans une église où on avait une vision distorsionnée de la spiritualité. On pensait que plus t'étais sérieux, plus t'étais sévère, plus tu étais spirituel. Je me souviens, lorsque j'étais enfant, il y avait une dame dans notre église, puis elle était tellement... elle souriait jamais, OK? Elle était sérieuse, sévère. Et moi, j'avais 5-6 ans, puis je me souviens d'avoir demandé à ma mère, « Maman, mais qu'est-ce qu'elle a, la madame? » Je dis, « Pourquoi comme ça? » Et ma mère m'a dit, « Ah, oh, elle, c'est parce qu'elle est très proche du Seigneur. » Et là, je me suis dit dans ma petite tête, si ça, c'est être proche du Seigneur, je ne veux pas être proche du Seigneur. Ça a tellement de l'air plate, être proche du Seigneur, je ne veux pas. Il y a quelques années, j'ai visité une église avec Karine. Puis lorsqu'on est arrivé, j'ai été choqué parce que lorsqu'on est entré dans le lobby de l'église, il y avait une affiche avec un avertissement et c'était écrit « Défense de rire ». Sérieux. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai commencé à rire de façon incontrôlable. J'étais comme défense de rire. C'est trop drôle. Voyez-vous, il y a des gens qui ont une mauvaise vision de la spiritualité. Il y a des gens qui pensent qu'ils doivent choisir entre être heureux et spirituel, entre la foi et le fun. Mais laisse-moi vous dire ceci. Si votre foi tue tout le fun dans votre vie, vous n'avez peut-être pas la foi. Vous avez peut-être juste la religion. Le fun et la foi ne sont pas en opposition. Avez-vous remarqué comment dans notre monde occidental, on va de plus en plus vers le cynisme? Avez-vous remarqué comment c'est à la mode de ne pas être heureux? Je parle souvent des jeunes adultes et une jeune adulte que je parlais récemment, elle est très joyeuse, elle sourit, elle est une personne douée pour le bonheur, comme on dit. Et elle m'expliquait que dans sa classe à l'université, elle se fait juger parce qu'elle est heureuse. Les gens pensent qu'elle est fake. Parce que c'est à la mode d'être malheureux. Puis si tu n'es pas bien, il faut que tu t'écoutes dans ton malheur. Il faut que tu cajoles ton malheur. Il y a un cynisme qui est en train de s'établir dans notre société, mais ce n'est pas mon plus grand problème. Mon plus grand problème, c'est qu'il y a un cynisme qui est en train de s'installer chez beaucoup de croyants. Ça, c'est un gros problème. On est devenu cynique à propos du zèle des nouveaux. Pourquoi? Parce qu'on a perdu notre propre passion pour Dieu. On est devenu cynique à propos de la prière parce qu'on a arrêté de prier. On est devenu cynique à propos des miracles parce qu'on ne s'attend plus à en avoir de toute façon. L'Église est en train de devenir cynique. C'est un cancer qui ronge les églises. Lorsque j'étais pasteur jeunesse à Sherbrooke, il y a une jeune femme qui se joint à notre église. Et lorsque je l'ai vue pour la première fois, j'étais la voir. Je dis, hey, bonjour, comment ça va? Moi, c'est David. J'ai dit, t'es nouvelle ici? Elle dit, non, non, je suis pas nouvelle. Elle dit, c'est mon église maintenant. Je dis, OK. J'ai dit, t'es allée à notre église? Elle dit, oui, mais maintenant, j'ai décidé de me joindre ici. Et j'ai dit, pourquoi? Mais elle dit, parce qu'à chaque fois que j'allais dans mon église, à chaque fois, je ressortais de là déprimée. Et moi, j'étais jeune, jeune pasteur, puis ça m'a frappé là, comme un mur de briques. Je me suis dit, ça ne devrait jamais être comme ça. S'il y a un endroit dans le monde où tu dois être encouragé, fortifié, édifié, c'est quand tu es avec l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la place. C'est pour ça qu'à notre Église, La Chapelle, nous croyons qu'une partie de notre appel, c'est pas tout notre appel, mais une partie de notre appel, c'est de restaurer ce qu'on appelle la joie dans le sacré. Que c'est le fun de suivre Dieu, qu'il y a de la joie à connaître Jésus-Christ, qu'il n'y a pas de joie en ce monde qui est plus grande que la joie de connaître Christ. C'est pour ça qu'on chante fort à la chapelle, c'est pour ça qu'on crie fort, c'est pour ça qu'on applaudit fort, c'est pour ça qu'on se repent pendant 10 minutes, puis on célèbre pendant 1 heure. Pourquoi? Parce qu'il y a de la joie à suivre Dieu. L'Église ne devrait jamais ressembler à une funéraille, mes amis. L'Église devrait ressembler au ciel. Et au ciel, il y a de la joie, il y a de la célébration. Est-ce qu'on peut sonner comme le ciel pendant 5 secondes puis faire du bruit pour Jésus dans la place? Come on! Yeah! Je crois que la joie est la cure contre le cancer du cynisme. Il est temps, il est grand temps pour l'Église de prendre la joie au sérieux. Notre joie va être un témoignage pour ce monde qui n'a pas de joie. 3 principes pour cultiver la joie ce matin. Voici le premier. Premièrement, il faut prendre la joie au sérieux. Prendre la joie au sérieux. Le texte nous dit que le peuple était dans le deuil et dans les pleurs. Et Esdras, le sacrificateur, leur a dit, « Ne vous affligez pas. » Et aujourd'hui, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui est affligé, « Afflige-toi pas. » On est offensé de se faire dire « ne t'afflige pas ». Hey, qui es-tu, toi, pour me dire de ne pas m'affliger si j'ai le goût de m'affliger? Ça sent même manquer de compassion. Comment tu peux dire à quelqu'un qui est triste « réjouis-toi ». Ça semble vraiment être dur envers la personne, mais voici pourquoi tu peux le faire. Parce que la joie, hein, c'est un choix. Tu dis vraiment? Oui, oui, vraiment. Je sais que c'est complexe, OK? Je ne suis pas stupide. Je sais qu'il y a un ensemble de facteurs biologiques, environnementaux et spirituels sur notre niveau de joie. Je sais que c'est complexe. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui commence à la même place. Je sais qu'il y en a qui sont doués pour le bonheur et c'est facile pour eux autres. Ma femme est comme ça. Elle est heureuse tout le temps, OK? Je suis comme, comment tu fais? Comment tu fais? C'est comme, mais on ne part pas tous à la même place. Mais écoutez-moi bien ceci. La joie est un choix pour chacun d'entre nous. Dieu ne nous commanderait pas de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. La joie est une habileté qu'on peut apprendre. La science a démontré que si certaines parties de notre cerveau deviennent fixes et sont pleinement développées à l'âge adulte, la science a aussi démontré que certaines zones du cerveau peuvent grandir toute notre vie. Et l'une d'entre elles, c'est ce qu'on appelle le centre de la joie. Le centre de la joie peut se développer jusqu'à ton dernier souffle. En d'autres mots, tu peux apprendre à être heureux. C'est pas fixé. C'est quelque chose qui peut grandir. Dieu ne nous commanderait pas de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Il y en a qui disent, ouais, mais t'es peur là. Il y a des moments, c'est absurde de se réjouir. J'aimerais vous dire ceci. Toujours se réjouir est absurde, c'est vrai. Mais toujours se réjouir en Dieu n'est pas absurde. Esdras n'a pas dit « Ne vous affligez pas, car la joie est votre force ». C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit « Ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur est votre force ». C'est différent. C'est vraiment différent. C'est la même idée que l'apôtre Paul reprend dans Philippiens 4. Paul a repris la même idée. Il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Il ne dit pas « Réjouissez-vous toujours ». Non, non, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Pourquoi? Parce que parfois, se réjouir est absurde, mais toujours se réjouir en Dieu ne l'est pas. Dans chaque moment, dans chaque circonstance, c'est possible de se réjouir en Dieu parce que la joie du Seigneur n'est pas basée sur les circonstances. Lorsque la Bible parle de la joie, ce n'est pas la même définition que dans la pensée populaire. Ce n'est pas la même définition que les gens ont comme image mentale. Lorsque la Bible parle de la joie, elle parle de quelque chose qui ne dépend pas des circonstances. Dans la culture populaire, les gens disent « je vais être joyeux, je vais être heureux lorsque… » fill the blank. « Je vais être heureux lorsque je vais l'avoir la job. » Je vais être heureux, heureuse lorsque je vais trouver mon conjoint, lorsque je vais avoir la promotion, lorsque ma santé va aller mieux, lorsque mes enfants vont aller mieux. Mais la vraie joie, la joie biblique, la joie du Seigneur n'est pas basée sur les circonstances. Habacuc 3, car le figuier ne fleurira pas, point de vendange dans les vignes, la production de l'olivier sera décevante, les champs ne donneront pas de nourriture, le petit bétail disparaîtra de l'enclos. Hey, ça va mal, là, OK? T'as-tu déjà eu une mauvaise journée? Lui, il a une mauvaise vie, OK? Tout va mal, le petit bétail disparaîtra de l'enclos, point de gros bétail dans les étables, mais regardez ce qu'il va dire après. Mais moi, j'exulterai en l'Éternel. Hey, ça va mal à chope pour lui. Ça va vraiment mal. Mais il dit, mais moi. Pourquoi il dit, mais moi? Parce que tout le monde fait autre chose. Il y a un flot d'humanité, il y a un nombre, il y a une masse humaine qui, lorsque ça ne va pas bien, ne peuvent pas se réjouir. Il dit, mais moi, j'exulterai en l'Éternel. Le mot exulter veut dire être dans une joie intense avec une expression évidente. Wow! Ça va mal et il démontre la joie. C'est vraiment contre-courant avec ce qu'on vit aujourd'hui dans notre société. Vraiment contre-courant. Ça veut dire que tu peux avoir des circonstances extrêmement difficiles et avoir la joie quand même. Ça veut dire que tu peux avoir $1 million en banque puis ne pas avoir la joie. Mais tu peux avoir un compte de banque assez modeste et avoir la joie. Tu peux avoir un super job payant et ne pas avoir la joie. Et tu peux avoir un travail au salaire minimum et avoir la joie. Tu peux avoir un conjoint extraordinaire et ne pas avoir la joie. Ou tu peux avoir un conjoint pas si extraordinaire et avoir la joie. Tu peux avoir une santé parfaite et ne pas avoir la joie. Mais tu peux être malade et avoir la joie parce que la joie du Seigneur ne dépend pas des circonstances. Oui. Amen. Il y a quelques années, il y a plusieurs années, j'étais, avant que je sois pasteur dans notre église, il y a un homme qui était tombé de son toit. Il était en train de déneiger. Il s'appelait M. Haché. Et son prénom, c'était Steak. Pas vrai. Et M. Haché était tombé de son toit, il s'était brisé les hanches et il a été hospitalisé pendant plusieurs mois. Et un dimanche, le pasteur dit, « Mes frères, voulez-vous, s'il vous plaît, aller visiter M. Haché à l'hôpital? Il a besoin de nous, il a besoin de notre support. » Alors, Karine et moi, on était tout jeunes mariés, 20-21 ans. On se dit, « OK, on va aller voir M. Haché, il doit être tellement découragé, ça doit être tellement difficile. » Alors, on prie, Karine et moi, on se prépare, on se motive, on arrive dans la chambre d'hôpital. Le choc. Pourquoi? Parce que M. Haché était dans une joie extraordinaire. M. Haché, son visage rayonnait comme Moïse qui vient de descendre de la montagne. Il était tellement encourageant, il était tellement bénissant. On est ressortis de là, on broyait comme des fous. Il nous serrait, il nous faisait des hugs, on était encore. C'était formidable. Et le dimanche suivant, lorsqu'on est retourné à l'église, le pasteur n'a pas dit, « S'il vous plaît, voudriez-vous aller voir M. Haché? » Le pasteur a dit, « Vous avez tout besoin d'aller voir M. Haché! » Pourquoi? Parce que la joie ne dépend pas des circonstances. La joie du Seigneur, c'est bien plus qu'une émotion. C'est un état spirituel. Oui, bien sûr, la joie est une émotion, mais c'est d'abord et avant tout un état spirituel. La plupart des gens pensent que la joie existe dans une condition binaire, c'est-à-dire soit je suis triste, soit je suis dans la joie. Les gens voient ça comme ça, binaire, un ou l'autre. Mais la joie du Seigneur, c'est pas comme ça. La joie du Seigneur existe dans un état non binaire. Je peux être triste et avoir la joie du Seigneur en même temps. En même temps. Comme la foi est assez grande pour contenir tous nos doutes, de la même manière, la joie du Seigneur est assez grande pour contenir toutes nos peines, tous nos chagrins, toutes nos déceptions, tous nos découragements. La joie du Seigneur est notre force. Et Esdras et Néhémie et toute leur clique avaient compris ce lien qui existe entre la joie et la force. Ils avaient compris que lorsque ta joie monte, ta force monte. Lorsque ta joie descend, ta joie descend. Ce n'est pas la force du Seigneur qui est ma joie. C'est la joie du Seigneur qui est ma force. Ça veut dire, commence par la joie et la force va venir. La joie du Seigneur, c'est la meilleure thérapie qui existe. Meilleure que Denis Morissette, meilleure que Daniel Descaries, meilleure qu'un joint. Il y en a qui savent c'est quoi? Meilleure qu'une boîte de chocolat, meilleure que le Canadien de Montréal qui va gagner la Coupe Stanley en 2055, meilleure que de magasiner sur Amazon. Bon, je sais qu'il n'y a personne qui pense que de magasiner sur Amazon est une thérapie ici à l'Église Nouvelle Vie, mais à la chapelle, on a plein de gens qui pensent ça. Meilleur que le magasinage, la joie du Seigneur est notre force. Et l'ennemi de ton âme, il sait ça. Fait qu'il va tout faire pour te voler ta joie. Parce qu'il sait que s'il vole ta joie, il va avoir ta force en même temps. Alors, il va tout faire pour essayer de remplir tes pensées avec toutes les raisons que tu as d'être frustré, jaloux, amer, découragé, pour t'amener à te comparer avec les autres. L'ennemi va t'amener à minimiser tes bénédictions et magnifier tes malheurs. L'ennemi veut te faire focusser sur les mauvaises choses dans ta vie plutôt que sur les bonnes choses dans ta vie. L'ennemi veut t'amener à regarder à ce que tu n'as pas plutôt qu'à ce que tu as. Et il va déployer toutes ses tactiques contre toi, tout l'enfer contre toi pour t'amener à être colérique, pour t'apitoyer sur toi-même, pour être triste et dans l'ingratitude. Et quand il fait ça, petit à petit, il vole ta joie et petit à petit, il vole ta force. Savez-vous pourquoi l'ennemi en a tant après notre joie? C'est parce que l'ennemi est incapable d'expérimenter la joie lui-même. Il a été banni pour toujours de la présence de Dieu. Et d'où vient la joie? Dieu. Et parce qu'il est banni de la présence de Dieu, il ne peut pas aujourd'hui et demain et éternellement expérimenter la joie. Et parce que lui n'a pas la joie, il veut s'assurer qu'il n'y a personne d'autre qui va l'avoir. Tu as déjà rencontré comme ça, quelqu'un comme ça? Hein? Si moi je ne l'ai pas, personne ne va l'avoir. Il est exactement comme ça. Francis de Sales a dit ceci. Le malin aime la tristesse et la mélancolie parce qu'il est lui-même tristesse et mélancolie. Et il en sera ainsi pour l'éternité. Par conséquent, il désire que tout le monde soit comme lui. Il est temps pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ de prendre la joie au sérieux, de faire un pas en avant, de se tenir devant l'ennemi de nos âmes et de dire, « Tu n'auras pas ma joie. Je ne serai pas comme toi. Dans le nom de Jésus, je vais me réjouir dans l'éternel. » Allez, quelqu'un applaudit plus fort que ça, matin. Tu as besoin d'applaudir pour toi. Amen. Prendre la joie au sérieux, mais aussi prendre l'obéissance au sérieux. Chapitre 8, verset 12. Tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des parts et se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Ils avaient lu le livre de la loi. Verset 14. Ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrit par l'intermédiaire de Moïse que les Israélites devaient habiter sous des huttes pendant la fête du septième mois. Verset 17. et il y eut de très grandes réjouissances. Écoutez-moi bien, deux choses que je veux souligner ici. Ils ont compris la parole de Dieu et ensuite ils ont obéi à la parole de Dieu. Comprendre la parole et obéir à la parole, c'est essentiel pour expérimenter la joie sur une base quotidienne. Okay? D'abord, comprendre la parole. Je crois que ce n'est pas possible pour un croyant d'habiter dans la joie si on ne nourrit pas notre âme régulièrement avec la parole de Dieu. C'est la parole, c'est de comprendre la parole de Dieu qui nourrit ton âme et qui nourrit ta joie. Récemment, j'ai rencontré une jeune femme dans une conférence. Elle était tellement joyeuse et rayonnante que j'ai dit, faut que j'aille demander son histoire. Après ça, je m'en vais la voir. Je dis, hey, moi c'est David, raconte-moi ton histoire. Elle dit, j'étais fiancée, il y a 15 ans, j'étais fiancée à un homme merveilleux. Puis elle dit, tout d'un coup, je suis virée folle. Elle dit, j'ai laissé mon fiancé, j'ai laissé ma famille, j'ai laissé mon église. Je me suis éloigné du Seigneur, j'ai vécu une vie de débauche pendant 3 ans. J'étais tellement profonde là-dedans que même ma mère ne savait même pas où j'étais. Elle dit, personne ne savait si j'étais vivante ou morte. Puis elle dit, au bout de 3 ans, je me suis repenti. Je suis revenu vers mon fiancé, elle l'a marié, revenu à son fiancé, revenu à sa famille, elle a eu des enfants, elle a remis sa vie en ordre. Et pendant 10 ans, cette femme-là marche avec Dieu, mais elle dit, j'avais aucune joie. J'ai dit, qu'est-ce qui a changé? Parce que, évidemment, tu as la joie maintenant. Elle m'a dit ceci. Elle dit, j'ai commencé à lire la parole de Dieu à chaque jour. J'ai dit, ah oui? Puis qu'est-ce que tu lis? Elle dit, tout. Elle dit, je lis 50 chapitres par jour. Là, je me suis senti cheap parce que moi, je suis pasteur puis je ne lis pas 50 chapitres par jour. J'ai dit, ah oui, tu lis tout. Elle dit, oui. Puis elle dit, je comprends maintenant la parole de Dieu. Elle dit, ça me donne tellement de joie. Comprendre la parole remplit ton âme de joie parce que les paroles de Dieu sont des paroles de vie. Maintenant, ce n'est pas juste de comprendre la parole qui donne la joie. Ça, c'est bien, mais c'est en surface. Voici ce qui donne une joie profonde, d'obéir à la parole. Comprendre la parole de Dieu nous donne un niveau de joie, mais obéir à la parole de Dieu amène un niveau de joie plus profond. Anna Wendell Smith a écrit ceci, « La joie vient de l'obéissance à Christ et à travers l'obéissance à Christ. Sans l'obéissance, la joie est peu profonde et artificielle. Oh. » Parfois, c'est possible pour un croyant de marcher dans la désobéissance et que Dieu vienne nous donner des moments de joie. C'est possible parce que Dieu, dans sa grâce, est tellement bon. Mais c'est quelque chose d'anormal. Lorsqu'un croyant marche dans la désobéissance, il n'y a pas de joie profonde. La joie est superficielle. Mais lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, lorsqu'on accepte de collaborer avec le Saint-Esprit dans ce processus que le Nouveau Testament appelle la sanctification, c'est de là que vient une joie profonde et non superficielle. C'est à travers l'obéissance à Christ. Le sentier de la joie, c'est le sentier de l'obéissance. Laissez-moi vous dire ceci, il n'y a aucune joie qui surpasse la joie de l'obéissance à Jésus-Christ. Jésus a dit, « Si vous gardez mes commandements, ma joie sera en vous et votre joie sera parfaite. » Et ça explique pourquoi tellement de croyants n'ont pas la joie. Parce que tellement de chrétiens marchent dans la désobéissance envers Dieu. Ils n'ont jamais rien sacrifié pour Dieu. À chaque fois que Dieu pointe quelque chose dans leur vie, ils gardent et ils refusent. Ils n'ont jamais eu un moment où ils mettent leur Isaac sur l'autel. Ils disent toujours, je garde, je garde, je garde. Et leur joie est tellement peu profonde. Est-ce que Dieu vous demande en ce moment de lui donner quelque chose, d'obéir à lui et vous résister? Peut-être que c'est une relation qui n'est pas la volonté de Dieu, un appétit qui est désordonné, une sexualité qui n'est pas alignée avec les Écritures, quelque chose que vous regardez, quelque chose que vous dites, quelque chose que vous faites, un endroit où vous allez. Est-ce qu'il y a quelque chose où vous résistez à Dieu? Ne vous attendez pas à être dans la joie si vous résistez au Saint-Esprit, parce que la joie, c'est un fruit de l'Esprit. Et lorsqu'on marche dans la désobéissance, on attriste le Saint-Esprit. Et si l'Esprit de Dieu est en nous et il est attristé, comment on pourrait être dans la joie? Prenez l'obéissance au sérieux. Je veux dire à quelqu'un ici que tu es dans une saison en ce moment où Dieu te demande de mettre ton Isaac sur l'autel et tu hésites. J'aimerais dire ceci. Du moment où tu courbes ta volonté devant Dieu, du moment où tu dis « Seigneur, ça me coûte, j'ai pas le goût, ça va faire mal, mais je te fais confiance, que si tu me demandes de donner ça, c'est pour mon bien, c'est pour le mieux. Puis tu prends ton Isaac et tu le mets sur l'autel. J'aimerais te dire, il n'y a aucune joie qui se compare à la joie de l'obéissance à Jésus-Christ. Aucune. Prends l'obéissance au sérieux. Voici mon troisième. Prendre la louange au sérieux. Chapitre 9. Et les Lévites dirent, levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité, que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-delà de toute bénédiction et de toute louange. Et si vous lisez le chapitre 9, ils vont éclater en louange. Un chapitre, 37 versets où ils louent Dieu, ils adorent Dieu, ils disent des choses comme tu es puissant, tu es miséricordieux, tu es compatissant, tu fais des miracles. Ils viennent avoir cette éruption de louange. Pourquoi? Parce que la joie vient à travers la louange. La joie vient dans la louange. Combien de funérailles j'ai fait? Récemment, j'ai fait la funéraille d'un frère, d'un homme de notre église qui est décédé à 45 ans. C'est tragique. Et la maman était là. Une dame, 70 ans, mais une dame qui aime Dieu. Et je voyais la joie du Seigneur dans cette dame-là, malgré ses pleurs, malgré ses souffrances. Il y avait des chants qui étaient chantés aux funérailles de son fils. Vous savez, on n'est pas fait pour mourir avant nos enfants. Hein? On n'est pas programmé de même. Hein? It makes no sense. Right? Mais cette femme-là qui avait perdu son fils, qui chantait à son Dieu, « Donne-moi un cœur tout entier, complètement dévoué. » Cette femme avait compris que la joie, ça vient à travers la louange. Puis il y a tellement de gens qui ne comprennent pas ça. Il y a tellement de gens qui attendent de le filer, de le sentir, que ça aille bien pour louer Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose. Une des choses que l'ennemi veut faire dans ta vie, c'est de te museler. C'est que tu zippes pour pas que tu loues Dieu. Parce qu'il sait très bien que la joie vient à travers la louange. Il y a plein d'hommes et de femmes de Dieu dans les Écritures qui avaient compris ce principe-là, que la joie vient à travers la louange. Il y en a plein d'exemples. Si tu avais demandé au roi Josaphat, lorsqu'il était encerclé par les Ammonites et les Moabites, « Hé, pourquoi vous chantez? » Il vous aurait répondu, « On ne chante pas parce qu'on est encerclé. On chante parce que lorsqu'on chante, la joie de l'Éternel est notre force. » Si vous aviez demandé à Shadrach, Meshach et Abednego qui ont été jetés, qui étaient sur le point d'être jetés dans la fournaise ardente, « Pourquoi vous chantez? » Il n'aurait pas dit « On chante parce qu'on s'en va dans la fournaise. » On chante parce que lorsqu'on s'en va dans la fournaise et qu'on chante à l'Éternel, la joie de l'Éternel est notre force. Si vous aviez demandé à Paul et Silas en prison, « Pourquoi vous chantez alors que vous venez d'être battus et roués de coups? » Il aurait dit, on ne chante pas parce qu'on est en prison, on chante parce que lorsqu'on est en prison et qu'on chante, la joie du Seigneur est notre force. Il avait compris ça, la question, c'est est-ce que toi, tu l'as compris? Ne soyons pas de ces croyants immatures qu'il faut que ça aille bien pour louer Dieu. J'aimerais te dire ceci, quand ça va mal, tu chantes plus fort. Quand tu n'as pas le goût de venir louer le Seigneur, tu te traînes à l'église. Et tu chantes plus fort. Et tu lèves tes mains plus haut. Tu dis, mais je ne le sens pas. Quand tu ne le sens pas, tu le chantes plus fort. Tu le cries plus fort. Il y en a, t'as arrêté de chanter. C'est pas le temps d'arrêter de chanter. Si ça va pas bien dans ta vie, c'est le temps de chanter. J'ai entendu cette histoire il y a quelques années. Puis j'ai fait, ah, ça illustre tellement, tellement bien mon point. C'est l'histoire d'une famille qui avait un oiseau, un canari. Et l'oiseau chantait à tous les jours. Et cet oiseau-là faisait vraiment la joie de la maisonnée par son chant. Puis sa maîtresse avait l'habitude de nettoyer sa cage une fois par semaine. Puis, elle prenait l'aspirateur pour ramasser les débris dans le fond de la cage et nettoyer la cage. Je faisais ça à chaque semaine. Puis un jour, alors qu'elle est en train de nettoyer la cage de son oiseau, elle a accidentellement échappé quelque chose au sol et elle s'est penchée pour le ramasser, mais elle s'est pas aperçue que l'angle du boyau d'aspirateur avait légèrement changé. Et alors qu'elle s'est penchée pour ramasser le truc, l'oiseau était aspiré dans le vacuum cleaner. Alors elle a fait « Oh mon Dieu Jésus, mon oiseau, ok, arrête l'aspirateur, ouvre la porte, prends le sac, déchire le sac, mets la main dans le sac. » L'oiseau, il bouge encore. Elle le prend, elle le sort, il est encore vivant. Mais il était tout gris, ok? Plein de poussière. La seule chose que tu voyais, c'était les deux petits yeux. Ben, en fait, les deux petits yeux, parce que c'est un oiseau, c'est comme ça, OK? Les deux petits yeux, tu voyais rien d'autre, juste les deux petits yeux. Elle prend son oiseau, elle le nettoie, elle enlève la poussière dessus, elle le remet dans sa cage, puis elle dit, « Merci Jésus, mon oiseau vivant! » Mais il y a juste un problème. Vous savez c'est quoi? Il n'a plus jamais chanté! L'oiseau avait le PTSD! En fait, l'oiseau avait le BPTSD, le Bird PTSD. L'oiseau n'a plus jamais chanté. Et je me disais, il y a tellement de croyants qui sont comme ça. Il y a tellement de gens ici ce matin, tu as perdu ton chant. Tu as cru les mensonges de l'ennemi que tu ne pouvais plus chanter. Tu attends que ça aille bien dans ta vie pour chanter à nouveau. Des gens découragés qui ont arrêté de chanter. Des gens déçus par la vie qui ont arrêté de chanter. Des gens qui ont des rêves brisés et qui ont arrêté de chanter. C'est pas ça que tu attendais de la vie. C'est pas comme ça que tu pensais que ça se passerait. Peut-être que tu avais des beaux rêves. Peut-être que tu avais des rêves nobles. Peut-être que tu as des rêves qui sont alignés avec Dieu. Peut-être que tu pensais que tes enfants allaient marcher avec Dieu et qu'ils ne marchent pas encore avec Dieu en ce moment. Mais tu as arrêté de chanter. Tu as laissé l'ennemi te museler. Je suis ici pour une chose, puis s'il y a une phrase que je veux que tu retiennes de tout ce message-là, c'est la phrase suivante. Je suis ici pour vous dire ceci ce matin, par l'autorité de la parole de Dieu. Tu vas chanter encore. Tu vas te remettre à chanter dans le nom de Jésus. Laisse pas l'ennemi te museler. Tu vas chanter encore. Même les non-croyants font ça. Souvenez-vous des attentats de Paris? C'est quoi une des premières images qu'on a vues dans le métro? La gang de Français qui chantait. Hey, c'est une gang de Français qui ne croient pas en Dieu. Chante quand ça va mal. Le peuple de Dieu va chanter à Dieu quand ça va mal. Le peuple de Dieu va chanter à Dieu quand ça va bien. Le peuple de Dieu va se lever. Le peuple de Dieu va dire « La joie du Seigneur est ma force. » Je peux être triste en même temps. Je n'ai pas être dans le déni de ce que je vis. Je n'ai pas être dans le déni de mes émotions. Mais la joie du Seigneur surpasse toutes mes tristesses et toutes mes peines. Elle est plus grande. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le Seigneur, mes amis? Allez, allez! Come on! Et on va se lever, tout le monde! Tout le monde! Est-ce qu'on peut donner 5 secondes d'ovation au roi des rois, au Seigneur des seigneurs? Allez, fais du bruit dans la maison de Dieu! Réjouis-toi ce matin! Réjouis-toi ce matin! Dans le nom de Jésus! Alléluia! Yeah! OK! Là, vous êtes presque prêts à chanter, OK? Presque prêts. Dernière parole pour vous. Psaume 118, restez debout. Ça dit ceci. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous. Yeah! Je vais leur lire. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. J'ai toujours pensé que ce verset-là, lorsque ça disait « Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie », je pensais qu'il parlait d'aujourd'hui. Mais il y a quelques mois, j'ai rencontré un nouvel ami. C'est un pasteur juif messianique. Et il m'a dit, « David, dans ce texte-là, il dit, le jour que Dieu a créé, il dit, c'est pas ce jour. » Je dis, « Ah non. » Il dit, « Oui. » Parce qu'il dit, si tu lis le contexte du chapitre, il dit, ça parle du jour où le Messie va venir. Puis il dit, « Nous savons que le Messie est venu. » Alors, dans ce verset, ce jour veut pas dire ce jour. Dans ce verset, ce jour veut dire ce jour. Ça parle de la croix. Ça parle de Jésus qui a donné sa vie pour nous une fois pour toutes et que tout est accompli en Jésus-Christ. Et qu'en lui, je peux me réjouir. À cause de ce jour, je peux me réjouir. À cause de ce jour, je suis purifié par son sang précieux. Quelqu'un dit amen? Dites amen. À cause de ce jour, je suis sauvé par la foi, pas par mes œuvres et mes propres efforts. Quelqu'un dit amen, amen. À cause de ce jour, je suis sanctifié par sa grâce. C'est lui qui me sanctifie. Quelqu'un dit amen. À cause de ce jour, nous sommes appelés fils et filles du Dieu vivant à cause de ce jour. Alors, mon ami, même si tu n'as pas aucune raison de te réjouir en ce jour, tu peux te réjouir à cause de ce jour dans le nom de Jésus, à cause de ce qu'il a fait pour toi. Est-ce qu'on peut lui donner une dernière ovation? Allez, allez, est-ce qu'on peut donner une acclamation au Seigneur? Yeah! Alléluia! Alléluia! Laissez-moi prier pour vous maintenant, Seigneur. Je te prie que ta joie, celle de ton esprit, puisse maintenant envahir nos cœurs de chaque personne ici et en ligne en ce moment. Que la joie du Seigneur vienne nous inonder alors que nous répondons à ce message en chantant. Parce que la joie de l'Éternel est notre force dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit amen et on chante ensemble, répondant à ce message en chantant au Seigneur.